Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir dans la bande des grandes gueules du sport. C'est votre bande aussi, hein. Venez au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. On est ensemble jusqu'à midi, vous le savez, comme tous les week-ends. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast, en train de courir en fait votre sortie à vélo. Il fait un peu frais ce week-end sur toute la France, les conditions sont pas optimales, mais ça n'empêche pas certaines grandes gueules du sport parfois de sortir. N'est-ce pas Marc Madiot ? Bonjour Marc !
Bonjour !
Toi, la pluie, le vent, ça t'a jamais fait peur?
C'est un peu, alors je vais être un peu provocateur, c'est un peu la différence entre le tennis et le vélo. Comme dit Daniel Manjas, piqueur officiel du Tour de France, nous, on ne met pas la bâche.
Ouais, ben voilà.
Ah, non, mais... C'est juste pour donner le ton de la journée. Et pour bien réveiller Sarah.
Ouais. Bonjour Sarah Pitkowski.
Bonjour Marc Madiot. Bonjour à tous.
Vous allez bien?
Très bien, vous. Quand il y a un peu de pluie, toi, tu ne sortais pas faire du tennis?
Bah, non, on ne peut pas jouer au tennis, mais ça n'empêche qu'on est des sportifs. On va quand même courir quand il pleut, quoi.
Mais maintenant, à son grand âge, elle fait du longe-côte, tu sais.
Oui,
elle se balade le long de la côte bretonne, les pieds dans la flotte.
Mais comment tu sais tout ça?
Je t'imagine tellement bien en train de faire ça.
La prochaine fois que j'en fais, je t'envoie une photo.
Ah ouais. Bonjour Christophe Cessieux.
Bonjour Georges, bonjour les copains.
Christophe impeccable.
Royal.
Dans 6 jours, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. Ouais. Il est passé chez le coiffeur. Ouais.
J'y vais deux fois. Une fois tous les 4 ans avant les Jeux et une fois tous les ans avant le départ du Tour de France. Comme ça, je suis bien. Ouais.
On est sur quelque chose d'aérodynamique.
Il faut voilà. Pour compenser les muscles qui s'en vont par la vitesse aérodynamique.
C'est peut-être ça qui va faire la différence en soi.
Ah,
je crois qu'il y a d'autres choses qui font la différence.
Mais on vérifiera. On va pas parler d'autres alors.
David Douillet est avec nous. Salut David.
Salut les copains.
Ça va David. Tu vas bien?
Ça va super. Le principal, c'est de pas prendre de bâche surtout.
Alors attends, je regarde. Est-ce que Fred Weiss est là aujourd'hui? Fred?
Non.
Ah non.
Non, il est pas là. Bon, ça va. Ça devrait être viril mais correct aujourd'hui dans les grandes gueules du sport. Jusqu'à midi au programme aujourd'hui de vos GGDS à 10h, à 6 jours, donc des JO d'hiver de Milan Cortina dans RMC et la radio officielle. Amélie Oudéa Castéra, la présidente du comité olympique et sportif français, sera face au GG. On va parler des ambitions sportives, du contexte politique aussi. Vous posez toutes vos questions, évidemment, avant cette compétition. Sur le buzzer, l'OM peut-il se relever du fiasco de la semaine en Ligue des Champions? Les Marseillais, avec un Roberto De Zerbi qui a semblé en danger cette semaine, se déplacent au Paris FC à 17h. Le zapping, le j'y crois pas, il y aura du rugby, il y aura du vélo également. T'as vu que Vingegaard est tombé à cause d'un amateur cette semaine, Marc?
Oui, j'ai vu, oui.
Ils sont un peu embêtants parfois les amateurs quand...
Ah, on va en parler tout à l'heure.
Le handball aussi, malheureusement les Bleus sont passés à la trappe. Et le vestiaire sur le poids des caméras, alors que joueuses et joueurs à l'Open d'Australie se sont plaints cette semaine du manque d'intimité sur le tournoi qui ressemble de plus en plus à une télé-réalité. Sarah, t'as déjà cassé des raquettes à l'abri des regards?
Oui, mais c'est pas l'abri des regards, c'est parce qu'il n'y avait pas de caméra, heureusement.
On va en parler.
Il n'y avait pas de caméra.
Ben là, sinon, ça aurait été compliqué.
Non, pas beaucoup. Pas intentionnellement, en tout cas.
Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, vous remportez le maillot signé et authentifié de Giannis Antetokounmpo. Ah, c'est dans des jours comme ça où Denis me manque. On parlait de Giannis Antetokounmpo aux Bucks de Milwaukee. En plus, un maillot qui peut devenir très vite Collect Corp parce qu'il risque de partir de Milwaukee. Grâce à notre partenaire authentique signature.com pour gagner votre maillot de Giannis Antetokounmpo, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez jeu J-E-U au 7-32-16. J-E-U au 7-32-16. 32-16 pour participer au débat, notre WhatsApp, je vous l'ai dit. Et puis on suivra la finale en quelques instants de l'Open d'Australie. Finale dame entre Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale, et la Kazakh Elena Rybakina, numéro 5. Mais d'abord, on va y aller tout de suite à Melbourne. Ce qu'on a vécu en tennis hier, c'était bien réel, les amis.
MC, la une des grandes gueules du sport.
Dernière soirée d'audition pour la France, un incroyable talent.
Revers sur revers, Novak Djokovic qui pilonne le revers de Yannick Sinner, mais pour l'instant ça tient des deux côtés. L'échange est remarquable.
Jamais j'ai eu aussi hâte de voir un numéro.
Il est fort sur sa ligne, Novak Djokovic, même si là il fait 3 de gauche, ça va dans le filet, 40-30.
Je suis bluffé chaque fois. Quel talent de dingue.
Wow, service gagnant, il a plus qu'à finir là. C'est pas possible, il avait un coup droit pénalty, un revers pénalty, il se fait prendre. C'est pas possible. Mais il a tenu la qualif là, il s'est trompé. Il s'est trompé, Novak Djokovic.
C'est un truc de fou ce qu'on vient de voir. Mais attends.
Waouh.
Le niveau est gueudin.
Oh, ça sort. Yannick Sinner qui part à la faute. Et Novak Djokovic réalise l'exploit insensé. 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Il l'a fait. Il sort le numéro 2 mondial. Il met fin à 5 défaites d'affilée. Et dimanche, il jouera pour un 25e majeur. Incroyable.
On lui disait, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Il est plus capable de mettre deux pieds devant l'autre.
J'aime bien quand elle a la scène des grandes vérités comme ça, Sarah.
Et qui dit que je parlais de Djokovic?
Mais c'est pour ça que notre malveillance légendaire fait qu'on aime reprendre des expressions sans aucun contexte. C'est notre spécialité. Une journée de tennis pour l'histoire. Hier, près de 10 heures de jeu et 17 pour les deux demi-finales disputées. D'abord, Alcaraz, vainqueur face à Alexander Zverev au bout d'un duel homérique de 5h27. Et surtout, une résurrection... je sais pas si on peut dire inattendu à ce moment de l'histoire, mais l'inoxydable Novak Djokovic a créé la sensation en sortant en plus de 4 heures de jeu le grand favori du tournoi, le double tenant du titre, Yannick Sinner, de 14 ans, son cadet. La différence d'âge entre Christophe et moi est même pas aussi importante à vérifier quand même. À 38 ans.
Je suis sûr que je te mets ta route.
À vérifier quand même. À 38 ans, 39 en mai, le Serbe a réalisé l'un de ces matchs qui reste dans les mémoires. Il tentera dimanche face à Alcaraz d'aller décrocher le 25e titre du Grand Chelem de sa carrière pour repousser encore un peu plus loin le record. À Melbourne, il n'a jamais perdu une finale. 10 finales, 10 victoires. Les GG, je vous pose la question. Ce matin, oui ou non, Djokovic, Novak de son prénom, est-il définitivement devenu le plus grand joueur de tous les temps? Le GOAT, on arrête, hein, on arrête les palmarès et tout ça. Oui ou non, Marc Madio?
Oui.
Christophe Cessieux?
Oui.
David Douillet?
Non.
Ah. Oh. Sarah Pitkovski?
Quand même un oui, ouais.
Quand même un oui. On
oui,
vous
quand
attend
même un oui.
Au 32-16. Vous votez sur le compte X des GG du sport, hein. Également, on va voir tout à l'heure ce que vous en pensez. Vous êtes dites à oui à 59% pour l'instant. Ah, il y a toujours les fans de Federer et Nadal. Là.
Ah oui.
C'est très subjectif, évidemment, hein, ce genre
chacun
de.
Chacun aura toujours son goût personnel, hein.
Ça. Exactement. Mais moi, c'est toi.
Ben oui,
voilà, je te le dis, c'est une déclaration d'amour que je te fais ce matin.
Ce matin, il va me demander un truc. Hein.
Tiens, regarde, Xavier sur WhatsApp me dit le plaisir du week-end, c'est prendre mon café en écoutant les GG et savoir que je ne serai pas d'accord avec tonton Christophe sur un sujet dont j'ignore encore l'existence. C'est vrai que c'est dur d'être d'accord avec tonton parfois. Eric Salio est à Melbourne, à l'Open d'Australie. Salut Eric.
Salut les amis.
J'ai envie de te poser d'abord une question très simple avec une réponse simple. Ça va?
Fatigué.
J'avais posé la même question. Tu fais du 24.
Petite question par rapport à il y a quelques jours. Est-ce que, avec les matchs qui s'éternisent dans le temps, la cantine reste ouverte?
Oui, parce que Eric nous a dit la semaine dernière que pendant un point important, il était à la cantine.
Elle était fermée?
Je ne sais même plus à quelle heure ça s'est fini le match. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu Dieu à 3h du matin, et c'est pas lui qui est venu en conférence de presse, c'est nous qui sommes venus à sa rencontre tout près des vestiaires, parce qu'évidemment il a dit à la TP, écoutez, j'ai une finale à préparer,
c'est
donc
Djokovic, hein.
Chaque minute compte, donc c'est la presse internationale s'est déplacée vers le maître, parce que le maître, eh bien, il faisait une audience, quoi. Il a délivré quelques paroles, il a profité pour tailler les pseudo-experts qu'il envoyait à la retraite. C'était magnifique et on s'est régalé. Après, il a fallu travailler un peu. Non, je suis rentré à l'hôtel à 4h du matin. Et je me demande dans quel état ils sont les deux, là, les deux finalistes, parce que Djoko, faut le digérer ce match, parce qu'il a tout donné. C'était admirable, sa motivation. Mais Carlitos, il a souffert aussi physiquement. Donc, cette finale, elle est géniale. Mais je sais pas dans quel état.
Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, Eric, justement? Comment ils vont?
Rien.
Récupération. Les pieds en l'air? Ah,
complètement. Ils sont pas venus au stade du tout, Christophe. Ils sont pas venus au stade.
Non, on met plus les pieds en l'air pour récupérer.
Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait,
tu
alors.
Fais des bains froids. Tu fais des bains froids. Tu fais tout ce qui est possible, mais t'attends pas que ça se passe tout seul. Aujourd'hui, il y a une vraie aide extérieure pour pouvoir récupérer.
Bien, les pieds en l'air, moi. C'était bien.
Ouais. Tu peux le faire, hein, mais je suis pas sûr que t'aies une finale à jouer.
9h30 pour le match demain, 9h30 pour la finale dames également dans quelques instants entre Zabalenka et Rybakina. Eric, tu restes avec nous. Bah tiens, tu parlais de Djoko, qui a peut-être un peu réglé ses comptes avec ses quelques détracteurs encore. On va l'écouter.
Les pseudos, il a dit, Eric.
Allez. On l'écoute. I've never stopped
believing in myself. Je n'ai jamais cessé de croire en moi. Il y a beaucoup de gens qui doutaient de moi. Il y avait beaucoup d'experts qui ont voulu me mettre à la retraite ou qui m'ont mis à la retraite, et ça beaucoup de fois ces dernières années. Je veux tous les remercier parce qu'ils m'ont donné de la force, ils m'ont donné de la motivation pour leur prouver qu'ils avaient tort, ce que j'ai fait ce soir. Pour moi, ce n'est pas une surprise, honnêtement, je sais de quoi je suis capable.
Je sais de quoi je suis capable. Alors c'est vrai qu'on en a fait des débats sur les deux derniers week-ends. Hein. On a parlé de Djokovic ici, Christophe, le plus grand de tous les temps.
Moi je fais partie des pseudo-experts qui pensaient qu'il ne serait plus jamais en finale d'un tournoi du Grand Chelem.
C'est honnête.
Je l'assume. Franchement, il n'avait aucune référence avant d'arriver à Melbourne. Il n'avait pas disputé un match. Il était quand même un peu fatigué. Les deux autres étaient sur un nuage. Je n'imaginais pas une seconde qu'il puisse battre Sinner. La question, c'était, est-ce qu'il peut gagner un tournoi du Grand Chelem? Moi, je pense qu'il peut. Là, il s'en est rapproché, mais il lui reste un deuxième obstacle énorme, et peut-être encore plus énorme.
Il a monté l'Everest deux fois en trois jours.
Mais c'est vrai qu'il est bluffant. Le mec est bluffant. Arriver comme ça, avec le pied en charpie, parce qu'on parle d'ampoule, mais c'est pas une ampoule qu'il a. Il a le pied à moitié ouvert. Il arrive comme ça, il fait son...
Il avait un chandelier entier ouais, sous les pieds.
t'as vu le ouais. Mais
tu vois, la caméra, elle sert à quelque chose, là.
Pour voir
ce qu'il y avait Djokovic. Exactement, le pied de Djokovic, on l'a vu dans toute sa précision.
Dans tous ses détails, ouais.
Exactement.
Mais non, il est dingue. Et je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question du GOAT, c'est vrai qu'en termes mathématiques, il était déjà le plus grand de tous les temps, parce qu'il était au-dessus de Federer et Nadal en termes de victoire. Mais là, arriver à faire le pont entre deux générations, les deux plus grandes générations sans doute de l'histoire du tennis, peut-être, enfin, Sinner, Alcaraz, on verra, c'est en devenir.
Ils sont bien partis.
Mais déjà être la chaussure dans le caillou de Nadal et Federer pendant des années, puis être le plus grand tout seul et arriver à être encore le caillou dans la chaussure de Alcaraz et Sinner, ça franchement je vois pas quelqu'un capable de le faire et de le reproduire dans les années à venir. Il est tout simplement énorme et unique.
David, pourquoi tu dis non sur le plus grand de tous les temps?
Bah parce que moi j'ai toujours beaucoup de mal à comparer des athlètes qui sont pas de la même époque. Voilà. Djoko, c'est...
Oui, mais il a battu toutes les générations,
mais non,
David,
justement. Il n'a pas battu Borg, il n'a pas battu Cognor.
Oui.
Il n'a pas battu Balkenbourg.
Il n'a pas battu René Lacoste, tu as raison. Il n'a pas battu René Lacoste.
Voilà.
Il est habillé.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est champion de son temps. Là, je suis d'accord, de son temps. Mais faire des comparaisons de tous les temps, ça me pose un problème, parce que tu peux pas comparer quoi que ce soit.
Mais c'est en termes mathématiques, en nombre de victoires dans le Grand Chelem, David.
Mais oui, mais ça dépend de plein de choses, ça dépend de la concurrence, ça dépend des systèmes de préparation.
T'as 4 tournois par an ?
Regarde, je sais, mais Djoko, là, il a montré à la terre entière qu'en ayant une vie extrêmement, on va dire, monastique, saine, etc., etc., en ayant des préparateurs physiques, des préparateurs peut-être mentaux, des préparateurs au niveau de sa nutrition, etc., etc., on peut pousser le physique plus loin que les autres et donc d'augmenter le temps de la performance.
Tu crois que c'est parce qu'il a refusé les vaccins qu'il est aussi fort ?
Non, j'en sais rien, mais tout ça, ce sont des avancées que n'ont pas bénéficié d'anciens comme Borg, Connors, Lendl, McEnroe, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est ridicule pour moi de comparer une époque à une autre. Et ça serait encore plus ridicule dans d'autres disciplines, comme le vélo, par exemple, ou peut-être l'aspect technique a une incidence
cesse de comparer Pogacar à Merckx. Et pourtant, il y a une grosse différence.
Oui, mais
on est tous convaincus, David, que j'aurais éclaté, t'as dit rien. Hein.
C'est pour ça que je dis... Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est absurde de comparer des athlètes de différentes époques parce que ce n'est pas comparable. Le contexte est différent. Le niveau avec la qualité des compétiteurs qui les entourent, elle est différente. L'organisation des compétitions est différente. Le rythme, bref, tout est différent. Donc il y a tellement de différences que ça t'en vient.
David, t'as raison. Voilà. C'est vrai qu'en vélo, par exemple, on ne va pas comparer le vélo de Merckx et le vélo de Pogacar sur les poids et tout ça.
Alors, c'est juste en termes de palmarès sur les courses qu'ils ont gagnées, les tournois qu'ils ont remportés. C'est uniquement ça. Quoi.
Volontairement, je donne la parole d'abord aux non-spécialistes de tennis, hein, Sarah, parce que c'est ce qui s'est passé hier, je pense que ça dépasse le cadre du tennis et on va plus sur l'émotion du passionné de sport. Marc, toi, le plus grand de tous les temps, Djokovic, c'est une conversation de passionné, évidemment, mais Djokovic, tu l'aimais bien déjà.
Je suis spécialiste à l'état pur du tennis. J'ai eu péniblement l'occasion de tenir une ou deux fois une raquette dans les mains et c'était catastrophique. Mais moi, je m'arrête juste sur l'instant c'est un moment d'éternité qui s'est passé là hier. Et c'est là-dessus que je m'arrête. Ce mec, il a 38 ans. On le pousse à la retraite tous les 15 jours en disant c'est fini, il faut qu'il s'en aille. Et lui seul décide non, je ne m'en vais pas, je vais rester et je vais vous prouver que je peux encore le faire.
Ça te plaît ça?
Et ça, moi, c'est fantastique. Le mec, il a plus rien à gagner, il est blindé jusqu'à la fin de ses jours, il a tout eu, il a tout gagné, il a le record de Grand Chelem, et à plus de 38 balais, je suis là. Et je vais mettre la balle au fond. Personne n'y croit. Donc c'est là où c'est intéressant et c'est fantastique. Pour moi, oui, c'est le plus grand. Alors c'est sûr, on peut dire il était moins ci, plus ça. Il y a eu là, ces différences de génération. Je m'en fous. Aujourd'hui, il est magique. Il est exceptionnel. Et on va s'arrêter ce week-end sur lui. Et dans quelques semaines, il y aura d'autres tournois du Grand Chelem. Il aura sans doute du mal à réitérer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais peu importe. Il nous a fait arrêter le temps pendant quelques minutes. Voilà, c'est
ou
tout.
Quelques heures.
Quelques heures, oui. Mais c'est ce qui était intéressant, c'est surtout la fin.
La journée.
Et voilà.
Et le mec fut longue.
Et le mec, bah, tu prends le chapeau, tu le poses.
Non, mais effectivement, alors, David arrive à prendre du recul là-dessus, parce qu'il a tellement été habitué à gagner.
Ouais, l'émotion, c'est pas son truc, David.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que ce qui nous touche tous ce matin, c'est qu'on est encore beaucoup à l'émotion, en fait. Parce que l'émotion est tellement incroyable. Comme tu le dis, le temps était suspendu. Sarah, on a eu le sentiment hier, je pense tous, et vous les auditeurs et auditrices, ils nous écoutaient, ils reçoivent plein de messages, là tout le monde hallucine hein, encore. Hein, voilà, le cœur me dit Nadal, me dit Manu, mais la tête me dit Djokovic par rapport à ce que j'ai vu hier sur le WhatsApp. Ça, on avait le sentiment hier de vivre un truc historique, en fait.
Ah oui, absolument.
Un truc qui va rester.
Oui, je crois, pour ceux qui étaient en tout cas devant leur télé, parce qu'il faut les images ou il faut le son, parce que tu peux le suivre, le score. Mais il se passait quelque chose d'assez magique et d'assez irrationnel sur le terrain. En fait, s'il est le plus grand aujourd'hui, c'est parce qu'hier, il réalise indéniablement un exploit incommensurable. Déjà parce que il y a ce match face à Sinner que les 5 dernières fois ils se sont affrontés, c'est Sinner qui est passé devant. Tout simplement, on pouvait l'expliquer par toutes les raisons. En fait, il a son clone en face de lui de 14 ans, son cadet, qui fait tout plus vite, mieux et sans déchet.
Donc, il s'est battu lui plus jeune.
Mais en fait, je veux dire, quand on dit quand Eric en rigolant, il dit les pseudo-consultants, c'était impossible. Je n'ai pas vu une phrase où quelqu'un disait il peut le faire. On se disait il peut y avoir une bataille, mais à la fin, on ne pensait pas une seconde qu'il puisse battre sur le même tennis, sur le même terrain, Sinner. Sachant que hier, il a battu Sinner avec son tennis à lui. C'est-à-dire qu'il l'a battu du fond de court avec des rallyes de 15-20 frappes à une vitesse de jeu qui est... Mais c'est du jeu vidéo ce qui se passe. Et que pour Djokovic arriver à cette demi, déjà, un, il était quasiment perdu, il aurait pu être disqualifié au troisième tour par son geste de mauvaise humeur. Deux, derrière, contre Menchik, les spécialistes disaient « il s'en est pas sorti ». Il y a WO. Et ensuite, il est mené 2-7-0 face à Musetti. Et miracle. Sa tactique face à Musetti, c'était tout au filet. Et il menait juste 3-1 au troisième. Donc, en fait, déjà, se retrouver en demi-finale, c'est de l'ordre de dans un grand chelem, avoir autant de bol pour rester poli, pour arriver en demi-finale, tu dis déjà, c'est très bien. Mais ce qu'il réalise hier en termes
tennis. Il a piqué le chat de Deschamps, c'est ça que je veux dire.
Non, mais ça
pas loin.
Chance hier,
pas loin.
Mais...
David. Sarah, tu sais, puisque tu rentres dans le détail, et c'est super, et tout ce que tu dis est vrai, pour un garçon comme Djoko, je trouve que, et un garçon qui ne lâche rien, qui va dans absolument. Les plus fines capillarités de l'entraînement, qui titille l'excellence dans tous les domaines, il a une information qui pour moi est cruciale. C'est que Sinner, dès que ça dure, il se dégonfle.
Oui, absolument.
Dès que ça dure plus de 4 heures, c'est fini. Donc, je pense que dans sa tactique de jeu, et tu me diras si je me trompe, il tient, il élève son jeu, il est là, c'est un mur face à Sinner, mais il attend. Il attend que l'autre commence à gamberger au bout de ses 4 heures et qu'il commence à décliner comme il l'avait fait face à Alcaraz, face à un autre match épique du même niveau. Et c'est là où il le piège. Et c'est là toute la grandeur d'un Djoko,
oui,
c'est que mentalement, lui, il sait qu'il peut aller.
Il y a quand même une inconnue dans ton équation. On sait qu'au-delà de 4 heures, Sinner devient un joueur prenable.
Oui.
Mais lui, je suis pas sûr qu'il ait signé, qu'il pouvait tenir plus de 4 heures à ce rythme-là. C'est-à-dire qu'il avance quand même dans une forme d'inconnu. Il sait que plus ça va être long et qu'il arrive à tenir, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Mais au début du troisième set, il a la bouche ouverte, Djokovic. Il est plié en deux à chaque fin d'échange. Il est trempé en transpiration. Et je le regarde, on est avec mon mari, on regarde le match, on dit, mais là, il est dans le rouge. Au début du troisième, il est déjà dans le rouge. T'imagines pas que, à la fin du cinquième, 0-40 à 3 partout, il a 3 balles de break à sauver. Tu te dis pas une seconde qu'il est capable de le faire. Donc, tu peux trouver toutes les raisons. Ce qui s'est passé hier, c'est l'ordre de l'irrationnel.
Ouais,
c'est irrationnel.
Djokovic,
pour moi, c'est du mental. C'est que du mental.
Djokovic est-il définitivement le plus grand joueur de tous les temps? Tiens, Valide sur WhatsApp me dit une finale à son âge, c'est irrationnel. Comme le dernier Roland de Rafa, on a vécu des moments suspendus, comme le disait Marc. Mais pour moi, c'est Rafa le GOAT. Laissez-moi dans mon déni. Et oui, là, c'est vrai que là c'est la passion qui parle. Allez, on revient dans un instant. Djokovic, est-il définitivement le plus grand joueur de tous les temps? Et est-ce qu'on a vécu finalement l'un des joueurs de tennis les plus grands hier? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, encore sous le choc de la journée de tennis que l'on a vécue hier. Et un Novak Djokovic qui, à 38 ans, arrive en finale d'un grand chelem. On continue d'en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est définitivement le plus grand joueur de tous les temps? Vous êtes très nombreux, 32-16, à attendre. Mais d'abord, événement dans les grandes gueules du sport ce matin. Remportez vos places pour assister au match d'ouverture du tournoi des 6 nations. France-Irlande, jeudi à 21h au Stade de France. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Avant le match, vous assistez à la dernière heure du Super Moscato Show. La dernière heure, c'est la pire. Il arrive dans le Kikadi et tout. Normalement, vous repartez peut-être avec pas indemne. Puis direction au Stade de France pour assister au match avec la personne de votre choix. Et en plus, on vous rajoute un maillot du 15 de France dédicacé par les Bleus, franchement. Dès que vous entendez ceci, soit c'est parce qu'il est très tôt le matin et qu'il faut se réveiller, soit c'est parce que vous aurez 5 minutes pour envoyer rugby au 7-32-16.
Oui, il n'est pas très bruyant le coq là.
Ouais, petit coq.
C'est un petit coq, un petit cocounet. Hein.
On pense aux gens qui se réveillent, vous pourriez être agressé. Vous entendez ça, c'est rugby au 7-32-16. Vos places pour France-Irlande se gagnent uniquement sur RMC. Avant de continuer à parler de Djoko, Eric Salio à Melbourne dans l'Open d'Australie. La finale féminine va débuter dans quelques instants entre Sabalenka et Rybakina. Hein.
Oui, la Rod Laver Arena est plongée dans le noir. Hein. De toute façon, on va jouer en indoor hein, parce qu'il fait pas beau aujourd'hui. Et l'entrée sur le court des deux joueuses est imminente. Il y a un petit cérémonial sympa. Vous l'avez découvert sûrement tout au long de la quinzaine où elles empruntent un couloir. On a l'impression qu'elles traversent l'océan. C'est très bien foutu.
C'est très long.
Et donc, on va voir si Sabalenka va pouvoir reconquérir ce trophée puisque l'an passé, elle a perdu sur Madison Keys. Mais en face d'elle, il y a la redoutable kazakhstanaise Elena Rybakina, qui avait perdu il y a 3 ans contre Sabalenka. Donc c'est une finale qui s'annonce très indécise, je trouve.
Eric, on va continuer à débattre sur Djokovic. Tiens, je voulais juste revenir sur les conférences de presse qu'il y a eu cette semaine. Il y a eu un moment notamment qui a été très commenté, c'est quand Djoko s'est un peu agacé contre un journaliste qui, dans sa question, lui a dit: vous avez été en chasse derrière Federer et Nadal pendant toute votre carrière, vous êtes maintenant en chasse derrière Alcaraz et Sinner. Et lui a dit: mais attends, mais j'ai dominé pendant 15 ans au milieu les grands chelems. Non mais
c'est un jeune journaliste ou
je crois. Non mais c'est un vrai carburant,
c'est
pour Djoko quand même. Hein.
On va pas le citer,
ouais. Oh, bah, c'est un anglais alors.
Non, mais je crois que c'est un joueur du Telegraph. Bon,
c'était pas anodin comme séquence, ce moment-là.
Oui, mais de toute façon, Djoko, faut pas le titiller. Hein, il l'a dit, hein, je trouve disrespectful, manquer de respect, quoi. Et il rigolait pas, là, hein, croyez-moi. Et non, mais c'est tout Djokovic, faut pas l'attaquer. Mais il se nourrit de ça, hein. On l'a entendu encore tout à l'heure. Quand il y a des mecs qui l'envoient à la retraite, bah, il s'en nourrit. Ah bon, tu dis ça, toi? Bah, tu vas voir ce que ça. Et voilà. Et le résultat, c'est ce match fantastique contre Sinner hier, et il est capable de rééditer cette performance contre Alcaraz, et là, il va faire taire des bouches.
Non, mais c'est un garçon qui s'est nourri de l'hostilité. Ambiant du public aussi pendant toute sa carrière. Christophe, parfois ça l'a pas rendu sympathique. Hein.
Ah non, non,
on le sait. Même Roger Federer. Alors, j'ai revu hier soir un documentaire sur Federer qui disait il a été incompris, Djokovic, dans sa carrière. Mais les dernières années ont peut-être un peu changé. Là.
Il a été incompris. Il essayait de faire des blagues et ça tombait un peu à l'eau souvent.
Les imitations, c'était pas.
Il faut savoir qu'il est arrivé sur le circuit en imitant. C'est congénère. Sharapova en a pris pour son grade aussi. Nadal en a pris.
Non, mais
il est un peu ambigu. C'est-à-dire que tu veux, il voudrait être sympathique, mais parfois il n'a
pas toujours été. Rappelle-toi cette finale de Coupe Davis. On était ensemble à Belgrade, entre la France et la Serbie. Il avait des paroles nationalistes. Il voulait faire tomber la
chaise. Il était monté sur la chaise d'arbitre. Il avait parlé en serbe, donc on ne pouvait pas comprendre. Et il s'était adressé au public pour que celui-ci devienne encore plus hostile contre l'équipe de France. Mais comme on ne savait pas,
on savait que c'était hostile.
On a bien compris que c'était un peu.
Mais voilà, il a eu des côtés assez insupportables, ses fausses blessures. Ah ouais, j'ai mal là, mais en fait, il n'était pas blessé et il mettait les rousses à tout le monde. Son comportement, alors ça, c'est plus discutable, son comportement vis-à-vis de l'Australie et des vaccins. Bon, il est resté droit dans ses baskets. Certains, les anti-vax, en ont fait un héros.
Il a une image d'eau troublée que Federer et Nadal.
Federer et Nadal, surtout Federer, tu les prends pour des enfants de cœur.
Mais oui, mais
c'est les petits seins et l'autre, il a un peu côté bad boy.
C'est
pour ça que je l'aime bien, moi.
Toi, tu l'as toujours aimé pour ça.
Ouais.
Si tu devais le comparer à un grand coureur cycliste, tu vois, dans son caractère, dans sa façon de faire, tu le comparerais à qui? Est-ce que tu y a des comparaisons?
Joko. Bah, toute proportion gardée au niveau du palmarès, je dirais Ocaña.
Ah ouais. Ah bah c'est bien, c'est ton idole.
Le mec qui vient contre la puissance établie.
Ouais. Oui, mais il aime bien être contre.
Il adore être contre.
Quand il y a le Big Three, donc avec Nadal, Federer et Djokovic, le bon, la brute, le truand, tu sais qui était truand dans ce trio-là. Et il a essayé, en plus, de nombreuses fois, il le disait, de nombreuses fois, il a essayé de séduire et d'avoir le public avec lui. Mais il y a quelque chose qui faisait que il y avait de la maladresse où on pensait que c'était calculé. Souvent, on lui a dit qu'il calculait ses
qui manquait de spontanéité.
Exactement,
en fait.
qu'il essayait de s'approprier un public, mais que c'était pas naturel. Et effectivement, quand les deux sont partis, il a eu la place pour.
Eric,
il s'engage sur le plan politique. Hein. Il est obligé de déménager.
Contre le pouvoir en place en Serbie.
Il habite en Grèce désormais, hein, parce qu'il n'est pas du tout le bienvenu là-bas.
Ouais, parce qu'il a soutenu le mouvement étudiant. David.
Moi je pense qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein.
Non, il est né sous les bombes.
Ouais. Sous les bombes.
Je vous rappelle que la Serbie, c'est l'ex-Yougoslavie. Et je pense qu'il a dû bénéficier d'une éducation particulière, ne serait-ce que par ses parents qui ont dû connaître la Yougoslavie et le bloc de l'Est. On n'est pas dans les mêmes configurations que la Suisse ou l'Espagne, d'accord ?
Évidemment,
les parents de Nadal ont connu aussi sans doute une partie du régime franquiste.
Je n'ai pas connu le régime franquiste, mais
Je pense que toi aussi, mon cher Christophe, parce que nous avons des cheveux blancs bien ancrés, on a connu l'ancien bloc de l'Est et ça faisait pas rigoler du tout. Les gens souffraient dans ces pays, les gens étaient dans des conditions très très strictes, très dures, très âpres, très compliquées. Donc tout ça a été transmis à un Djoko qui devait être jeune et petit, et ça lui a peut-être donné une rage de se sortir du lot, une rage de vaincre qui est encore toujours présente aujourd'hui. Et moi je trouve, je vous entendais parler tout à l'heure de sa personnalité, etc. Mais il a la personnalité qu'il a avec ses qualités, ses défauts, mais il a une personnalité. Il me semble avoir entendu dans cette émission quelquefois, et en particulier en parlant du tennis, que il y a plus d'aspiration, il y a plus de caractère, ils sont tous sur le même truc, ils sont tous sur la même. Il y en a pas un qui dépasse plus haut que l'autre. On s'ennuie un peu. Là, on s'ennuie pas avec un Djoko.
Il se passe toujours un truc avec lui.
Il se passe toujours quelque chose. C'est quelqu'un qui s'exprime à travers son tennis, mais qui s'exprime aussi en tant qu'individu, en tant qu'homme, et qui, moi, je trouve, nous prouve qu'il a du caractère bien trempé, à la fois dans ses choix, ses décisions, mais aussi ses idées. Et ça, on peut pas le cacher. Et je trouve qu'il est attachant. Par ça, qu'on soit d'accord ou pas avec lui d'ailleurs.
Ah ben bien sûr, il est attachant, il était même peut-être un peu attachant au début, diraient certains. Tout le temps, on se regarde, tiens, Nabil sur WhatsApp dit Djokovic, même les pros Federer et Nadal sont dithyrambiques à son sujet, preuve que c'est le meilleur de tous les temps. Sylvain nous dit Djokovic n'a pas été aimé parce qu'il avait une hygiène de vie différente, parfois poussé à l'excès, mais il a une grande gueule, voilà pourquoi. Denise me dit non, c'est Rafael Nadal le plus grand. Bon, alors c'est très bien que le cœur joue là-dessus. Et on a Antoine qui nous appelle au 32-16. Salut Antoine.
Salut les grandes gueules.
Le plus grand de tous les temps. Il n'y a plus de débat ce matin après ce qu'on a vu hier, Antoine.
Écoute, l'admirateur inconditionnel de Federer que je suis ne peut que constater
que saluer,
la réalité objective des choses.
C'est bien.
concernant ce qu'a fait Djokovic, mais depuis des années en fait. Et je pense que, alors je parle sous le contrôle de Sarah et d'Eric Salio, mais peut-être que Federer restera plus dans l'esprit des gens parce qu'il a incarné une forme de tennis absolu, de perfection, etc. Et ce qu'a fait Djokovic sur la durée, c'est phénoménal. Et moi, ce que j'admire le plus chez lui, c'est que quand il arrive, qu'il commence à avoir des résultats 2005, 2006, et qu'il dit que son ambition, c'est de rivaliser avec Nadal et Federer, mais personne ne le prend en sérieux. Et il l'a dit, lui, il veut les battre, eux. Et non seulement il l'a fait, il les a dépassés, et il continue encore aujourd'hui à repousser les limites. Et par rapport à ce que vous disiez sur sa personnalité, qu'il n'a pas été trop aimé, je pense qu'à partir de 2011, il a accepté d'être le méchant de l'histoire.
T'as raison.
D'être le truand dans le bon, la vraie, c'est le truand. Comme
ils en ont servi aussi, ouais.
Et à partir du moment où il a assumé ça, d'être le méchant de l'histoire, il a été fantastique. Et finalement, il gagne aujourd'hui le respect qu'il a cherché à avoir au début, en étant maladroit dans sa façon de le faire.
C'est tout à fait ça.
Et c'est fantastique.
Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de positif autour de Djokovic. Avant, c'était celui qui nous empêchait parfois de voir Federer, Nadal, qu'on avait envie de voir. Aujourd'hui, il y a l'histoire positive de, entre guillemets, le vieux qui arrive battre les jeunes.
Et il repousse le temps où on va voir du Sinner Alcaraz pendant un moment. Mais on est allé voir les dates de ces trois, leurs derniers titres en Grand Chelem et l'âge qu'ils avaient. Parce que là, il a 38, il est dans sa 39e année. S'il gagne effectivement ce 25e titre, Federer gagne, il a 39 ans en 2018 quand il gagne son dernier titre à Melbourne. Moi, je pensais que, dans mon esprit, je pensais que Federer avait arrêté plus jeune. Nadal, c'est 36 ans quand il gagne son dernier Roland en 2022. Donc Federer a eu quand même une longévité avec 20 titres du Grand Chelem, mais comme quoi les souvenirs s'effacent véritablement.
Ah, mais là on marche évidemment à l'émotion.
Il est quand même dans une situation où il a le record de Grand Chelem tout en ayant traversé deux grandes époques du tennis. Aussi bien Federer que Nadal, et aujourd'hui Sinner et Alcaraz.
Et tu sais, Marc, et il n'a pas laissé la place. Et parce que Djoko était là, il n'a pas laissé la place à des Medvedev, à des Tsitsipas, à des Rude.
Zverev.
C'est-à-dire que ces mecs-là, ils auraient dû prendre le pouvoir.
C'est terrible ce qui s'est passé pour lui hier.
Ils auraient dû prendre le pouvoir, ces mecs-là.
C'est terrible. Je pense qu'hier, il a compris qu'il n'y arriverait jamais.
Je pense que Zverev, il ne peut plus dormir.
David, le mot de la fin.
Non, mais moi, vous m'énervez. Vous êtes tous d'accord entre vous.
On a bien compris quand t'énerves.
Ça m'énerve parce que les bons morceaux avalés n'ont plus de goût. là, vous êtes à chaud sur un fantastique match qui a eu lieu hier. Mais je suis d'accord avec vous, c'est fabuleux, etc. Mais on a tout. Vous oubliez tout. Vous oubliez ce qu'a fait Federer. Vous oubliez ce qu'a fait Björn Borg. Björn Borg a fait un parcours incroyable.
Mais c'est générationnel, en fait. T'as raison.
Ben oui, je sais. Mais enfin, mettez un peu de relativisme là-dedans. Les coups de gueule de McEnroe, le mauvais garçon de l'époque, c'était lui, et il s'en nourrissait. Mais moi, je trouve qu'il y a un fil conducteur sur toutes ces générations, c'est que tous ceux qui ont marqué ces générations dans le monde du tennis avaient tous un mental de dingue. Voilà, un mental de fou furieux.
Bien sûr.
Et je pense que, Sarah, je ne sais pas si tu vas me contredire, mais il n'y a que ça dans le tennis. Parce qu'à un moment donné, ils ont tous des coups fabuleux, ils sont tous hyper doués. Et ceux qui font la différence, ceux qui passent au-dessus du lot, c'est ceux qui ont des cabasses, des têtes de folie, et qui ne peuvent pas être renversés parce qu'ils sont dans un état de grâce où rien ne peut les renverser. C'est des monstres.
Bah, c'est des monstres, c'est pour ça que.
Mais il ne faut pas tous les oublier, il n'y en a pas qu'un seul.
Mais de toute façon, David, là, tu nous dis qu'on est un peu ridicule, mais si je dis David Douillet, le plus grand judoka de tous les temps.
Non.
Allez, évidemment, Novak Djokovic.
Arrête ça tout de suite.
Ok, je dément parce que j'ai peur. On reparlera demain matin, évidemment. On ouvrira là-dessus. Djoko face à Alcaraz, 9h30. Rendez-vous avec l'histoire dans les grandes gueules du sport. La finale dames commence, Eric Salio, à l'Open d'Australie, à la Rod Laver Arena.
Absolument, elle vient de débuter avec Aryna Sabalenka qui est au service, et donc précision importante. Ça se joue en indoor puisque voilà, on a un peu de pluie. Bon, on a eu du beau temps, on va pas se plaindre.
Oui, on va pas se plaindre, effectivement. Prenez votre place déjà pour demain matin, 32-16 à 9h, on va se poser la question. Djokovic peut-il réaliser le plus grand exploit sportif de tous les temps s'il s'impose demain matin?
C'est quoi la question? C'est pas une question. S'il le fait, oui.
S'il le fait, justement. S'il le fait. Ah bah, ah s'il oui. le fait, évidemment. Mais non, pas s'il perd. Si,
mais, non, mais même
il perd en 3-7.
Même s'il le fait, il n'y a même pas d'adjectif. Ah bah forcément, voilà. Il est au panthéon du tennis.
T'es là demain, donc on va en parler. Allez, tout de suite, le zapping, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madio, Sarah Pitkovski, David Douillet, Christophe Cessieux. Dans un instant, face au GG, Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du comité olympique et sportif français, sera avec nous à 6 jours des JO d'hiver de Milan-Cortina. On vous attend au 32-16 et sur notre numéro WhatsApp au 06 août 424 424. Si vous avez des questions, tout de suite vous me dites si on s'en fout, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Et bien justement, on va parler des jeux. Je m'en fous pas les amis, à 6 jours des jeux. Donc l'inquiétude pour la star du ski alpin Lindsey Vonn après sa lourde chute hier à Crans-Montana. Christophe.
Ah bah je m'en fous pas du tout.
Sarah.
Mais je m'en fous pas, non.
David.
Je m'en fous pas.
Marc.
Je m'en fous pas, mais je vous laisse la parole.
Allez, l'américaine de 41 ans effectue cette saison un comeback retentissant qu'on a beaucoup commenté ici. Elle rêve d'aller décrocher l'or olympique à Cortina, 16 ans après son premier sacre. Elle a lourdement chuté hier en début de descente où plusieurs skieuses sont parties à la faute entraînant l'annulation de l'épreuve. Léna Marjac est sur place à Crans-Montana pour RMC. Salut Léna.
Salut Georges, salut tout le monde.
Bon, tu as assisté à la chute, à cette descente hier. L'américaine s'est voulue rassurante hier soir, ce qu'on peut dire rassurante d'ailleurs.
Bon, pas vraiment, même si effectivement sur ses réseaux sociaux elle écrit que son rêve olympique n'est pas terminé, mais en attendant elle ne donne pas du tout la nature de sa blessure. Elle est effectivement touchée au genou gauche. Lindsey Vonn va continuer à passer des examens, elle va aussi continuer de discuter avec son équipe et les médecins pour la suite. La suite c'est évidemment ces Jeux Olympiques d'hiver dans quelques jours, mais c'est vrai que hier Lindsey Vonn a fait les frais d'une descente à Crans-Montana dans des conditions compliquées avec un gros manque de visibilité. Et donc après un saut, l'américaine a perdu l'équilibre, elle a terminé dans les filets de sécurité. Alors à ce moment-là, elle réussit tout de même à redescendre sur les skis, mais très 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 doucement. Elle se tenait le genou d'ailleurs à plusieurs reprises. Alors voilà, maintenant Lindsey Vonn, hein, vous l'avez dit, 41 ans, c'est une grande grande championne. Elle le dit aussi très bien dans son message, s'il y a bien une chose que je sais faire, c'est revenir. Là déjà, elle est en train de faire son comeback. Donc avec un objectif, c'est ce deuxième titre olympique à Cortina, et on le sait, avec Lindsey Vonn, tout est possible. Mais c'est vrai que l'avoir terminé de cette manière-là, avec possiblement une blessure, ce serait vraiment dommage et triste pour la fin de l'histoire.
Elle n'est pas au départ du Super G à 11h, là.
Non, pas Léna. Au départ, évidemment non.
Merci Léna, évidemment, on va suivre ça tout à l'heure. Christophe, c'est dimanche prochain, la descente
du midi. C'est
hein.
ça, c'est, ça, ça, jeu, hein. ça s'approche à grands pas. Et bon, en plus, c'est pas parce qu'elle a réussi à descendre la piste jusqu'en bas que les ligaments ne sont pas touchés, hein, parce qu'on sait que même avec une rupture des ligaments, ou même quand un ligament est touché, tu peux quand même arriver à faire quelques efforts physiques pendant quelques minutes. Non, c'est vraiment très inquiétant pour elle. On parlait de GOAT en évoquant le cas de Novak Djokovic. Et ben elle, c'est la GOAT du ski. Ben, et elle a tout fait pour être là au rendez-vous de ces Jeux Olympiques, sur sa piste fétiche à Cortina. Et elle est à une semaine de son grand rendez-vous. Et ces idiots d'organisateurs laissent partir la descente alors qu'il y a une purée de poids terrible, qu'il a neigé et que la piste n'est pas préparée dans des conditions optimales pour disputer une descente. Et ben voilà. Et ils en ont laissé partir 6. Il y en a 3 qui sont tombés avant finalement de dire, oh ben non, c'est peut-être dangereux, on va arrêter la descente. Voilà. Mais je trouve que c'est irresponsable et c'est vraiment dommage parce que les Jeux vont peut-être se priver d'une grande championne.
D'autant plus que cette course de Crans-Montana, elle n'était pas certaine de la faire, puisqu'elle avait dit que si elle avait assez de points au classement de la Coupe du Monde, elle se présenterait pas. En tout cas, elle aurait pu faire l'impasse. Et elle avait finalement tous ses points, puisqu'elle est leader de la Coupe du Monde en décembre. Donc en fait,
ouais, c'était une sorte d'entraînement. Mais bon, quand elle a vu le temps, elle aurait dû dire aussi.
Oui,
bon,
tu sais ce que j'y vais. Il y a des circonstances qui sont pas favorables. Ouais, mais voilà, et tu dis que si elle prend pas le départ, on la retrouve la semaine prochaine comme grande favorite pour la descente femme, quoi. Donc ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur parce que à 41 ans revenir pour ses cinquièmes jeux alors qu'elle avait arrêté il y a 5 ans sa carrière, c'est sacrément fort.
Après, on peut peut-être faire une piqûre pour enlever les douleurs comme à Nadal, à Roland Garros, ça existe. Juste pour la course.
Non mais moi, en vous écoutant, je pense juste à une petite chose. Je trouve qu'aujourd'hui dans notre émission, on est quand même tourné énormément sur l'ancienne génération.
Sur les vieux, c'est normal, on est des vieux autour de la table. Qu'est-ce que tu veux,
Joko, 38, et là, on est
41 ans.
C'est 41 ans. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui?
Il y a David Douillet qui est là.
David Douillet, oui, tout à fait. On va remonter encore un peu plus dans le temps, alors.
Et Marc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Allez, on zappe. Vous allez voir, c'est bon. L'histoire sera peut-être encore plus belle si jamais dimanche prochain.
Comme quoi, ça nous laisse de beaux jours.
Allez, on zappe. Je m'en fous pas. Du football. Lens reprend la tête de la Ligue 1 après sa victoire à Bollard 1-0 contre Le Havre hier soir. Sarah.
Non, je m'en fous pas. Non.
Marc.
Non,
on s'en fout pas.
David.
Non, on s'en fout pas.
Christophe.
Oh, c'est bien.
Les Sang et Or devaient réagir après leur défaite au Vélodrome le week-end dernier. Le buteur Ruben Aguilar. Les Lensois reprennent provisoirement la tête avec un point d'avance sur Paris qui se déplace demain à Strasbourg. Pierre Sage, l'entraîneur, il met la pression sur Paris?
Écoutez, Luis Enrique a dit en gagnant à Auxerre qu'il mettait la pression sur Lens. Donc nous, effectivement, on met aussi la pression sur le PSG. C'est très aisé de jouer le vendredi quand tu gagnes parce que tu peux regarder les matchs tranquillement et eux jouent avec ça en tête. Aujourd'hui, on est toujours dans notre volonté de marquer le nombre de points qu'on vise de manière à pouvoir attaquer l'Europe. On est à 2 victoires de cet objectif-là. Et c'est vrai que le fait d'avoir repris la première place ce soir est quelque chose de positif. Mais ce qui compte, c'est le compteur à points et c'est ce qui comptera à la fin.
Ah ben voilà, Pierre Sage.
Parfait. Il est sage, hein,
non, il est sage.
Non, mais il accepte, mais
ce qui est bien, c'est
il accepte
qu'en
de faire le jeu avec Paris. Hein.
Oui, mais il accepte de faire le jeu, mais il dit bien que son objectif, c'est l'Europe. C'est pas de finir premier, alors que le PSG doit finir premier.
J'ai déjà vu un mec, entraîneur d'un club opposé au Paris Saint-Germain qui dit mon objectif, c'est d'être champion.
Mais non, mais ce que je veux dire, ils sont à 15 victoires depuis le début de la saison. Ils ont souvent. Depuis novembre en tête du championnat, être devant Paris et tenir sur la distance, c'est quand même fort. Enfin, moi bien je trouve que c'est quand même fort. Quoi.
Non, ils bouffent la place de Marseille quand même.
Là. Ah bah oui, effectivement.
Ils mettent surtout la pression sur Marseille.
Marseille qui joue à 17h contre le Paris FC, Lorient Nantes 19h, ASM Rennes ce soir. Je vous rappelle qu'il y aura PSG Monaco en play-off de Ligue des Champions. Malheureusement, un dernier, je m'en fous pas rapidement parce que la situation est grave en basket. C'est important d'en parler. L'AS Monaco qui domine le championnat français et en Europe est au bord du précipice financier. David.
Ouais, je m'en fous pas.
Christophe.
Je m'en fous pas.
Sarah.
Je m'en fous pas.
Marc.
Je m'en fous, tiens.
rapidement. Non, mais attendez. Plombé par les dettes, miné par les retards de paiement, cloué par un conflit russo-ukrainien qui s'éternise et gèle la trésorerie de son président et patron, Alexei Fedoritchev, le club du Rocher brûle ses derniers billets et gratte les fonds de caisse désespérément. La principauté monégasque devrait reprendre la main elle-même dans les jours à venir avant d'envisager ensuite l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Audition devant la DNCG le 5 février prochain. David, là, c'est un club qui est soutenu par un mécène, un club qui domine aujourd'hui un sport français. C'est quand même terrible ce qui se passe à Monaco.
Bah, vous connaissez le vieil adage, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est ça pour Monaco. Il y a qu'un seul financeur. C'est un mécène d'origine russe, voire russe, je sais pas trop.
Okay.
Enfin bref, en tout cas, il y a qu'une seule source de revenus pour le club. C'est pas malheureusement la billetterie ni le food and beverage du club qui vont payer les joueurs. Ça, on le sait. Donc voilà, c'est toujours le problème. Maintenant, on est à Monaco. Je me fais
Le prince a décidé d'aller
non, mais en fait, peu importe si Monaco, même si le prince remet de l'argent, le problème, c'est que la majorité des contrats étaient liés au fait d'être encore en Euroleague. Et que l'Euroleague, ils vont avoir des sanctions de l'Euroleague. Donc, même si la principauté met de l'argent, le club va redescendre et va perdre la majorité de ses joueurs. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une catastrophe, en fait. Avant que Monaco revienne là où il était, ça peut mettre des années. Donc, c'est pas juste une question d'argent. Il y a aussi des contrats.
Oui, t'as raison Sarah, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que après, tu sais très bien que dans le monde professionnel et en particulier dans le basket aussi, l'argent c'est ce qui fait une équipe et une équipe de talent. Et Monaco l'a prouvé puisque elle était ou elle est la meilleure équipe du groupe. Donc en fait, ça va revenir. Toujours est-il que on pourrait élargir le débat, mais on n'a pas le temps sur quelles sont les sources de revenus du monde professionnel et la pérennité de ce monde professionnel par rapport à des modèles économiques différents. Voilà, le modèle économique de Monaco, c'est une seule voie, un mécène.
C'est le même que celui du Racing en rugby, de Toulon en rugby, et beaucoup de clubs de rugby.
Et c'est forcément fragile. David, t'as un coq à côté de toi?
Qui s'est transformé en coq d'un coup.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est le poulet de Bresse.
Le poulet de Bresse, pour vous dire que c'est le moment pour vivre.
Qui traîne le coq, là, parce qu'avec David, il va lui couper le cou. Hein.
Le moment pour vivre l'expérience.
Ah bah moi, je le fais au vin direct. Hein.
Et gagnez vos places pour France-Irlande ce jeudi au Stade de France. Vous avez 5 minutes pour envoyer rugby au 7-32-16. Rugby au 7-32-16. Allez, dans quelques instants, les amis, face au GG, Amélie Oudéa Castéra, la présidente du comité olympique et sportif français à 6 jours des JO d'hiver de Milan-Cortinal, sera avec nous. On vous attend au 32-16, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.